Voilà, notre parcours continue avec l'étude de la doctrine sociale de l'Église, donc de cette doctrine qui est l'enseignement de l'Église qui s'adresse aux sociétés. Et peut-être que plusieurs d'entre vous avaient en tête une objection à faire à M. l'abbé Boivin, mais c'était trop compliqué, donc vous ne l'avez pas faite. Et puis il aurait fallu en parler pendant une heure. Et donc je vais vous donner la parole. Si je vous donne les objections un peu en vrac qui nous viennent en entendant parler de cette doctrine sociale de l'Église, c'est que d'abord, ça paraît un ensemble d'enseignements un peu indéfinis, très larges. On parle de la société, de l'économie, ça parle de philosophie, ça parle de surnaturel avec la finalité de l'homme. Ensuite, autre groupe d'objections, c'est un combat qui est perdu d'avance. Monsieur l'abbé, on ne va pas retourner en 313, on n'est plus au Moyen-Âge, c'est fini tout ça. Et également, on a amené aujourd'hui le maintien de notre foi, c'est la crise dans l'Église. Donc en plus, vous nous dites qu'il faut essayer de conquérir la cité, c'est peine perdue. Et puis nous, pères et mères de famille, on a déjà du mal à s'occuper de nos enfants. Le travail est très prenant aujourd'hui, il y a une grosse concurrence professionnelle. Donc ce serait inutile de continuer et il est 11h15. On ferait mieux de commencer l'apéritif maintenant. Ce serait sûrement bien plus utile. Alors, puisque vous m'avez fait ces objections en bloc, je commence par une réponse en bloc. Un chrétien qui a la foi en Jésus-Christ et en sa puissance ne peut pas baisser les bras si facilement. Donc, votre réaction, si elle est défaitiste d'emblée, je la pointe du doigt. C'est pas possible d'être aussi défaitiste. Jésus a dit « Aie confiance, petit troupeau, j'ai vaincu le monde. » Et puis, si je vais un peu plus loin dans ma réponse brève, voici qu'un homme s'approcha et dit à Jésus « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Et là, Jésus nous donne un commandement, et je vais développer cette réponse. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et j'aimerais vous parler de l'observation des commandements. Alors, vous me dites, monsieur l'abbé, vous êtes en train de me dire que la doctrine sociale, ce sont les commandements, les 10 commandements, c'est la loi morale de l'Église. Oui, ça va être ma thèse pendant cette conférence. Peut-être que je me trompe. Vous me poserez des objections et des questions après. Ce sont des commandements, donc ça oblige. Donc ce sont des choses qu'on est tenu de faire en raison de notre baptême, en raison de la promulgation de la loi divine. Et donc, je vous propose pour commencer d'essayer de définir ce qu'est la doctrine sociale de l'Église, de quoi est-ce qu'elle nous parle, à quoi est-ce qu'elle nous oblige, si ce sont des commandements. Et donc ici, je donnerai beaucoup la parole à toutes les objections classiques qui sont en fait une incompréhension, à mon avis, de ce qu'est la doctrine sociale de l'Église. Ensuite, le contenu large. Alors, c'est impossible de résumer toute la doctrine sociale de l'Église, parce que, vous l'avez dit, je vous l'ai fait dire, ça parle d'économie, de politique, de corps intermédiaire, de famille. Alors, je donnerai des grands axes pour un peu déblayer le terrain et je ne pourrais pas aller plus loin. Et ensuite, concrètement, parce que oui, c'est gentil d'avoir des idées, de belles idées, de connaître les encycliques des papes, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, petit nombre, qui essayons de suivre cette doctrine sociale traditionnelle? Alors, d'abord, qu'est-ce que la doctrine sociale? Essayons de creuser cette question. Et d'abord, je vais avancer par objection. D'abord, donc, ma thèse, je vous l'ai dite dès le départ, c'est que la doctrine sociale, c'est l'enseignement moral de l'Église. En gros, les 10 commandements et les 4 vertus cardinales. Alors, peut-être vous êtes venu avec une objection en tête. Monsieur l'abbé, parlez de ce qui touche à la religion, parlez de votre sacristie, faites votre sermon en chair, mais ne vous mêlez pas de politique, s'il vous plaît. Ça, c'est notre domaine et on s'y connaît. Et ma réponse, et l'abbé Boivin l'a dit tout à l'heure, ma réponse, c'est justement, je fais mon devoir en rappelant la loi morale de l'Église. En tant que prêtre, c'est la compétence de l'Église. Et l'exercice de cette compétence est utile tant à la société pour lui permettre de parvenir à sa fin temporelle, le bien commun temporel, utile tant pour l'État, pardon, que pour l'Église, pour amener tous les hommes à leur fin surnaturelle qui est le ciel. Donc, c'est bien un domaine de compétence de l'Église que de parler de la loi morale. Et puis ensuite, vous allez me dire, autre objection très classique, mais pourquoi est-ce que ce serait l'Église catholique qui devrait imposer sa vision et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être dans une saine neutralité de l'État, respectueuse de la loi naturelle, du droit naturel, mais sans avoir besoin de parler de religion? Bon, objection ultra classique, la neutralité n'existe pas. Voilà, c'est un mensonge. Il n'y a pas de neutralité d'un régime politique. Un régime politique adopte forcément un système de pensée qui doit être cohérent pour que l'État fonctionne. Et donc, nos systèmes politiques qui se prétendent neutres, en vérité, sont des systèmes issus des droits de l'homme sans Dieu de Rousseau. Donc, c'est du positivisme juridique, c'est du naturalisme, c'est de l'exclusion de Dieu, c'est de l'individualisme, c'est l'exclusion du concept de société comme réalité naturelle. Et donc, c'est un corps doctrinal qui est très délimité, très défini. Et d'ailleurs, nous le savons très bien, si on pense autre chose, c'est combattu et ça marche pas. Donc, la neutralité n'existe pas. Et donc, la question qui se pose, c'est pas la neutralité contre le catholicisme, mais c'est est-ce qu'on choisit le catholicisme ou est-ce qu'on choisit l'idéologie des droits de l'homme sans Dieu ? Voilà. Alors, évidemment, le catholicisme, c'est la religion révélée, donc c'est le corpus doctrinal qui ne peut que procurer le bonheur à la société créée par Dieu. Ensuite, vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, vous manquez des connaissances nécessaires en économie, en sciences politiques, pour aborder ces sujets. Et justement, je ne souhaite pas me prononcer dans le domaine purement économique, dans des domaines techniques, mais simplement manifester de quelle manière les commandements de Dieu sont à appliquer dans la vie économique et politique. Parce que le christianisme nous demande de ne pas avoir une vision schizophrénique de la vie, de ne pas avoir une double vie, une vie à l'Église et une vie en politique et dans les affaires. Donc de ne pas avoir un comportement schizophrénique, mais d'avoir un comportement harmonieux et cohérent. Ensuite, pourquoi est-ce que l'Église a un titre spécial pour parler de ses commandements à la société ? C'est parce qu'elle connaît le cœur de l'homme. Je vous ai mis une image de guerre. L'Église connaît le cœur de l'homme. L'abbé Boivin l'a suffisamment rappelé. L'homme a tendance à l'ignorance et à la malice. À l'ignorance, donc, il a tendance à se tromper. Donc, ces rappels sont utiles, ils sont nécessaires parce que l'Église, éclairée par la révélation, peut rappeler les vérités nécessaires et utiles sans risque de se tromper. Voilà, donc ce que je voulais dire par ces premiers mots, c'est que cette doctrine sociale, c'est l'enseignement moral de l'Église. Mais c'est un enseignement moral qui s'adresse aux corps sociaux. Et donc on peut s'adresser à l'homme dans son action morale en général, et on peut s'adresser à l'homme dans son action en particulier dans la société. Et c'est l'objet précis de l'enseignement social de l'Église, de faire une sorte de résumé du décalogue pour la vie sociale dans tous les domaines de la vie sociale. Et donc, là aussi, vous allez me poser cette objection. Monsieur l'abbé, vous n'allez pas quand même vouloir régenter toutes les décisions politiques. C'est quand même pas vous qui allez décider à la place de la loi qu'on va voter dans le Grand Conseil, etc. Et là, je vous donne une distinction qui me vient de Jean Housset. Alors, je sais que c'est difficile à lire. Et donc, Jean Housset fait cette distinction avec des degrés de soumission à la hiérarchie ecclésiastique ou à l'enseignement de l'Église. D'abord, l'enseignement catholique, l'action catholique et donc l'apostolat est quelque chose qui se fait sous la direction de la hiérarchie ecclésiastique. Ensuite, l'action de formation et de rayonnement capillaire qui fait la promotion de cet extrait du décalogue qu'est la doctrine sociale de façon adaptée au monde dans lequel nous vivons et de façon adaptée aux personnes, aux groupes de personnes qui l'écoutent. Ce sont les laïcs qui ont pouvoir de le faire et même qui ont le devoir de le faire, chacun à leur place. Et s'ils se réclament d'une vision catholique, ils ont l'obligation, large, hein, générique, d'avoir un contrôle ecclésiastique qui leur assure, certifie, qu'ils disent vraiment quelque chose de catholique. Et donc c'est ce qui a fait la cité catholique, j'en reparlerai parce que je trouve que c'est un bel exemple d'action catholique. Et puis enfin, il y a l'action politique concrète, donc avec des décisions prudentielles, quel pourcentage pour tel impôt, est-ce qu'on augmente, est-ce qu'on diminue? Eh bien là, ce sont des laïcs qui vont s'inspirer de la doctrine de l'Église, mais évidemment, ce n'est pas au clergé à prendre des décisions concrètes. Voilà donc trois degrés dans lesquels la vision du catholicisme s'infuse progressivement. Et puis ensuite, une autre distinction qui est classique aussi et qui est clairement exposée dans l'encyclique Immortale Dei. Donc le pouvoir ecclésiastique que j'ai représenté à gauche s'exerce de façon directe dans les domaines du culte, de la nomination des évêques. Ensuite, le pouvoir civil que j'ai représenté à droite s'exerce de façon pleine et entière aussi dans le domaine purement civil, les institutions militaires, la formation des cadres politiques, etc. Et puis entre les deux, il y a un domaine qui est mixte, dans lequel les deux pouvoirs ont à s'entendre en fonction de la finalité surnaturelle qui est celle de l'Église, la finalité du salut des âmes. Et donc cette finalité ultime permet de trouver ou former les bons compromis, et ce sont les institutions d'enseignement, pardon, pas les institutions ecclésiastiques, c'est la protection civile du mariage qui sera en jeu dans ces domaines. Ensuite, une nouvelle objection, et puis vous allez me dire, monsieur l'abbé, je commence à comprendre un peu votre idée, mais en fait, sous prétexte de doctrine sociale, vous vous autorisez à parler en gros de tout. Donc c'est une espèce de bouillie que vous me présentez, dans laquelle vous allez, sous prétexte de votre responsabilité d'enseignement moral, vouloir vous prononcer donc des domaines philosophiques, économiques, de sciences politiques, d'exégèse, de théologie, d'écologie, pourquoi pas, point d'interrogation. Et puis si on regarde les enseignements des papes qu'on peut faire rentrer, papes traditionnels, dans cette doctrine sociale, on a Rerum Novarum qui nous parle de loi naturelle, sur la liberté quanta cura libertas pretentissimum, sur la définition de l'homme et de la société, quadragésimo anno, juste prix, le juste salaire, quadragésimo anno aussi, et vix per venit. Ensuite, les erreurs modernes, marxiste, communiste, nationaliste, individualisme, les encycliques Mitbrennender, Sorge, désolé, je ne parle pas allemand, et Divini Redemptoris. Ensuite, en exégèse, dans Quas Primas, on en a beaucoup de citations de la Sainte Écriture, et donc c'est de l'interprétation. Et puis la théologie, Mystici Corporis sur l'Église, encore une société. Finalement, on parle de tout. Quand on parle de la doctrine sociale de l'Église, la réponse, oui, on parle de tout, mais de tout ce qui est social seulement, de tout ce qui est social, et on en parle sous l'angle moral, comment bien agir en société. Et donc, ici, il y a une citation de Rerum Novarum. Léon XIII explique pourquoi il prend la parole sur les choses sociales. Ce que, pour le bien de l'Église et le salut des hommes, nous avons fait par ailleurs par nos lettres sur la souveraineté politique, sur la liberté humaine, la constitution chrétienne des États et d'autres sujets analogues. Aujourd'hui, et pour les mêmes raisons, donc pour le bien de l'Église et le salut commun des hommes, nous vous entretenons sur la condition des ouvriers. Donc oui, l'Église parle de l'agir humain social. Il le fait pour le bien surnaturel des âmes et pour le bien commun des hommes, le bien temporel. Donc, finalement, qu'est-ce que la doctrine sociale ? Et donc, c'est l'enseignement moral de l'Église à destination de la société temporelle. Et puis, vous allez m'objecter, mais monsieur l'abbé, la doctrine sociale, c'est quelque chose qui a été formalisé vraiment au XIXe siècle, au moment où il y a eu toutes ces idéologies destructrices de la société suite à la Révolution française. Avant, c'est entendu, on l'a compris, parce qu'on a bien entendu ce que disait l'abbé Boivin sur la filiation de cette doctrine, mais en fait, c'est quelque chose de daté. C'est quelque chose qui date du XIXe siècle, et aujourd'hui, il n'y a pas spécialement raison d'en parler. Par exemple, les débats sur le juste salaire, ils sont dans une bonne mesure, à mon avis, dépassés, me direz-vous peut-être, parce qu'on est sorti du libéralisme économique dans lequel les salaires n'avaient aucun contrôle. Et aujourd'hui, heureusement, il y a quelques contrôles sur les salaires pour éviter les salaires franchement injustes. Et donc, les critères de Pie XI sur le juste salaire, qui sont la subsistance de l'employé et de sa famille, la situation de l'entreprise, il faut qu'elle puisse payer, et puis les exigences du bien commun, il ne faut pas qu'il y ait trop de concurrence dans l'emploi. Ces critères, grosso modo, aujourd'hui, ils sont respectés. C'est un peu fini, cette doctrine. Est-ce qu'il faut vraiment continuer à en parler ? Eh bien, oui, il faut continuer à en parler parce que nous avons toujours besoin d'avoir cette norme d'action qui nous permette de bien agir dans la société, déjà nous-mêmes, individuellement. Et quel fondement de la doctrine sociale ? Là, je ne vais pas m'étendre, j'avais trouvé quelques citations, mais l'abbé Boivin l'a suffisamment abordé et donc je peux tourner ma page. Alors, je passe à la deuxième partie de mon propos, qui est l'enseignement de l'Église. Donc, j'ai compris, l'Église a le droit de parler de la morale, c'est son domaine. Donc maintenant, s'il vous plaît, dites-moi un peu en résumé de quoi il s'agit. Alors, de quoi s'agit-il ? Et puis, c'est pareil, je commence par une objection. Vous allez peut-être me dire, puisque c'est la mission de l'Église de rappeler le décalogue, de dire les 10 commandements, comment faut-il pratiquer les vertus, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas vous-même ? Pourquoi est-ce que, de temps en temps, vous ne commencez pas un sermon par « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » ? Mais bien, chers frères, aujourd'hui, je vais vous parler de la doctrine sociale de l'Église et comme ça, vous aurez accompli votre mission. Eh bien, oui, bien entendu, l'Église souhaite enseigner elle-même ce dépôt qu'elle a reçu mission de transmettre, aller enseigner toutes les nations. Et la première condition pour ça, c'est précisément le contenu de l'encyclique Quas Primas. La première condition pour ça, c'est qu'elle ait les mains libres. Et puis qu'on lui reconnaisse qu'elle elle a autorité pour parler dans ces domaines et que l'État, lui, n'a pas autorité pour aborder ces questions. Et donc, le préalable, si on veut, de cet enseignement de l'Église, c'est qu'on laisse à l'Église la liberté de s'adresser aux hommes et de promouvoir son enseignement. Donc, j'ai intitulé ça « Les modalités de l'enseignement de l'Église » ou « La doctrine des deux pouvoirs » parce que cette modalité, elle est fondée sur le fait qu'on reconnaisse qu'il y a bien deux pouvoirs. Tous les pouvoirs ne sont pas ramassés en une seule main, comme en URSS où le parti politique a le pouvoir idéologique et en même temps le pouvoir exécutif. Il y a deux pouvoirs qui sont dans deux mains différentes, l'Église et l'État. Et donc, je vais aller rapidement pour ne pas allonger mon propos. Et donc, en quelques mots, c'est cette doctrine des deux pouvoirs. Elle repose d'abord sur la distinction du naturel et du surnaturel. Et donc ici, j'ai pris une citation de l'empereur de... Alors, je vais retrouver le pape qui a dit ça. Donc, un pape en 494 qui a dit « Il y a deux principes par lesquels le monde est régi, principalement l'autorité sacrée des pontifes et le pouvoir royal. Voilà. Donc, d'abord, la distinction du naturel et du surnaturel. Ensuite, l'indépendance de l'Église. Donc, dans l'encyclique Ubi Arcano, j'ai écrit la citation « Dieu et Jésus-Christ ayant été exclus de la législation et des affaires publiques, et l'autorité ne tenant plus son origine de Dieu, mais des hommes. » Donc là, c'est Rousseau. Il arriva que les bases mêmes de l'autorité furent renversées dès lors qu'on supprimait la raison fondamentale du droit de commander pour les uns et du devoir d'obéir pour les autres. Donc l'Église doit être indépendante pour rappeler les principes du pouvoir. Et donc pour rappeler d'où vient l'autorité, il ne faut pas qu'elle soit soumise à une pression étatique. Et donc elle doit être indépendante. Donc indépendance de l'Église. Et puis j'ai mis, déjà ici, on peut constater en fait que l'Église rappelle des éléments du décalogue. J'ai cité le quatrième commandement, tu honoreras ton père et ta mère. C'est un commandement qui, si on veut, est l'un des commandements phares de la doctrine sociale de l'Église. C'est l'un des commandements qui est le plus développé par cette doctrine. Tu honoreras ton père et ta mère, c'est le commandement qui inclut tous les devoirs de la société, donc le devoir d'obéir à la société instituée par le Christ, l'Église, comme à la société instituée, la société civile. Donc, indépendance de l'Église, ensuite, indépendance de l'État, donc là, je me suis trompé, je crois, dans ma diapositive, indépendance de l'État, l'État aussi à son indépendance, le Christ n'a pas voulu exercer directement le pouvoir temporel sur la terre, et de même, les papes, comme vicaire du Christ, n'exercent pas directement le pouvoir temporel sur la terre, sauf la petite exception du Vatican, mais sinon, ils laissent les dirigeants civils exercer ce pouvoir. Et l'hymne de la liturgie, que commentera sûrement mieux mon confrère l'abbé Ducrest, dit « Il ne ravit point les diadèmes éphémères, celui qui distribue les couronnes du ciel. » Voilà. Distinction des deux pouvoirs. Voilà. Ensuite, un même esprit doit animer l'Église et l'État, puisque la finalité est commune, le salut des âmes. Léon XIII dit « Il est nécessaire qu'il y ait entre les deux puissances une union pleine d'harmonie qu'on peut justement comparer à l'union qui existe dans l'homme entre l'âme et le corps. » Voilà. Et donc, pour l'État comme pour l'Église, le premier commandement s'applique, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Voilà. Ensuite, cinquième point sur la doctrine des deux pouvoirs, l'Église a un pouvoir indirect sur le temporel quand même. Donc l'Église est amenée à se prononcer en raison de la loi morale qui s'applique à tous, même au sujet de la loi civile, la loi morale s'applique. Et donc, l'Église a un pouvoir sur tous les hommes et sur tout leur comportement. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il y a un seul Dieu. L'homme n'est pas partagé en deux. Il n'a pas deux personnalités, une qui échappe à l'Église et une autre qui lui est soumise. L'homme est soumis à Dieu dans toutes ses actions, donc il est soumis à celle que Dieu a commis auprès de lui pour le garder, le protéger, l'enseigner. Voilà. Ensuite, sixièmement, l'Église ne demande pas de privilèges, mais le respect de son droit propre. Et donc, l'Église n'a pas de la chance quand elle est reconnue. C'est normal qu'elle soit reconnue, parce qu'elle est instituée par Dieu pour accomplir sa mission. Et donc, l'Église doit être reconnue. C'est un devoir moral des gouvernants. Et puis, enfin, la juste autonomie des laïcs dans le domaine temporel. Donc l'Église n'est pas une mère griffue, elle n'est pas une mère autoritaire, et même dans le domaine de l'apostolat, elle n'exige pas nécessairement que tout soit absolument soumis, seulement que les institutions principales, les principales initiatives, soient soumises à la hiérarchie ecclésiastique, et donc a fortiori dans, entre guillemets, l'apostolat politique. Et Pie XII, dans un discours au congrès des laïcs du 14 octobre 1951, dit « Il y a des apôtres laïcs, hommes et femmes, qui regardent le bien à faire. » Il développe, il décrit « Ne vous inquiétez pas de demander à quelle organisation ils appartiennent. Admirez plutôt et reconnaissez de bon cœur le bien qu'ils font. » Et enfin, la conclusion de cette doctrine des deux pouvoirs, qui est, si on veut, le soutien, les fondations de la doctrine sociale, et en même temps un début de doctrine sociale, c'est la doctrine du Christ-Roi, si on veut, c'est l'apothéose. Le Christ est roi, il est chef de l'Église et roi des nations. Et encore une fois, c'est le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Souviens-toi de sanctifier les fêtes, spécialement à propos de Quas Primas, du point de vue de l'institution de la fête liturgique. Et donc, le Christ a droit de régner sur les États comme il règne sur son Église. Donc, voilà le principe. Ensuite, pour développer la doctrine sociale elle-même, je vous propose de l'aborder à propos des principales catégories de société. D'abord, il y a l'État. Ça va être mon premier propos. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les corps intermédiaires, qui sont grosso modo les entreprises et les communes. Ensuite, il y a la famille. Et enfin, il y a la place des individus dans les sociétés. Ce sont ces quatre parties qui structurent la doctrine sociale de l'Église, si on veut, le corps de la doctrine sociale. Je ne fais pas de partie spéciale sur l'économie, parce que l'économie peut être abordée à travers les enseignements des papes sur chacun de ces échelons de la société. Et donc, d'abord, l'État. Et l'État, alors, ici, je commence par un combat inutile. Alors, d'abord, je voulais vous montrer quelques références sur la doctrine des deux pouvoirs. Vous avez par exemple Arnaud de Lassus qui a écrit une synthèse qui s'appelle Politique et religion, qui traite principalement de la doctrine des deux pouvoirs. Alors, par rapport à l'État, donc vous avez bien compris, il s'agit que l'État promulgue des lois qui soient respectueuses de la morale catholique. Et là, vous me dites, bon, bah, monsieur l'abbé, c'est gentil votre prise de parole, mais c'est impossible et c'est inutile. Voilà. Alors, permettez-moi de vous rappeler un fait historique, donc tiré de ce livre qui raconte le combat des chrétiens sociaux au 19e et début du 20e siècle, Xavier Vallat, La Croix, l'Hélice et la peine des hommes. Permettez-moi de vous rappeler qu'à la Révolution française, les corporations ont été abolies avec la loi Le Chapelier. Ces corporations, d'ailleurs, je vous avais mis une citation de Louis XVI qui expliquait pourquoi il les avait encouragées et restaurées. Louis XVI a dit « Nous voulons donner aux ouvriers un moyen de défense en restaurant 144 corporations. Nous voulons leur donner un moyen de défense. Nous voulons qu'ils puissent jouir en commun de leur intelligence » qui est le bien le plus précieux de l'homme. Voilà. Bon, admirez la sagesse chrétienne du gouvernement de Louis XVI. Donc, le bien le plus précieux de l'homme, l'intelligence, est moyen de défense. Les corporations, et donc les ouvriers, vous le savez, suite à la Révolution française et à la destruction des corporations, se sont trouvés sans défense face à des patrons qui adoptaient le libéralisme économique le plus outrancier et qui baissaient les salaires de plus en plus, sujet de la concurrence économique débridée, et ça menait à la paupérisation de la classe populaire dans les années 1815-20. Alban de Villeneuve-Bargemont, un inspecteur de l'économie, dit qu'il y a 1 million de personnes qui vivent de façon extrêmement démunie en raison de ces conditions. Donc déjà une vingtaine d'années seulement après la Révolution française. Donc voilà, c'est l'occasion de pointer du doigt la responsabilité dramatique de la Révolution française sur la condition ouvrière au XXe siècle. Et les chrétiens sociaux auraient pu se dire « bon, ben, on ne peut rien faire, tout est détruit, on baisse les bras ». Pas du tout. Cet Alban de Villeneuve-Bargemont, dont je vous ai mis la gravure ici, dès l'après-révolution française, dès la Restauration, fait des études, milite, il a des responsabilités dans le gouvernement, il multiplie les initiatives et critique le libéralisme économique non contrôlé qui provoque cette concurrence illimitée. Il fait la promotion des sociétés professionnelles qui régulaient la production et protégeaient les employés. Et donc, suite à ce combat va être repris par Blanc de Saint-Bonnet, tous les autres grands chrétiens sociaux. Léon XIII promulgue l'encyclique Rerum Novarum, qui est dans la pleine lignée de ces chrétiens sociaux, qui s'en est évidemment inspiré. Et peu de temps après, les sociétés professionnelles vont apparaître dans les années 1700. Alors c'est bête, j'ai pas noté la date. De mémoire, 1880-84. Et les premiers syndicats agricoles, donc les syndicats, c'est la résurrection des corporations qui sont voulues par les papes. Les premiers syndicats agricoles sont fondés par des chrétiens sociaux qui étaient prêts à cela. Monsieur de Gaillard-Bancel, dans le Dauphiné, monsieur de Fongalan, pareil, dans le Dauphiné. Et puis, pas très loin d'ici, le troisième syndicat agricole fondé à Poligny, le syndicat de Poligny par Louis Milsan. Voilà. Donc, 60 ans après, le retour sur le créneau des chrétiens sociaux de cet Alban de Villeneuve-Bargemont, eh bien, succès, restauration des corporations. Donc, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui n'obtiennent rien. Ces chrétiens du 19e siècle se sont levés, ils ont obtenu des fruits. À nous de nous lever aussi et d'obtenir des fruits. Donc, je résume, parce que c'est impossible de tout dire, la doctrine de l'Église sur l'État. D'abord, l'existence des nations et l'attachement des hommes à leur patrie, donc l'existence des pays, de la société civile, est naturelle, contrairement à ce que dit Rousseau. Voilà, l'abbé l'a dit, mais il faut insister, c'est fondamental dans la doctrine sociale de l'Église. On ne peut pas réinventer une société fruit de l'intelligence humaine comme l'ont fait tous les idéologues totalitaires depuis 2 siècles. Voilà. Donc la société est naturelle, elle n'est pas à inventer, elle est à découvrir. Voilà. Donc ça, c'est une première vérité qui est fondamentale. Je vous ai cité Ubi Arcano Dei. Et puis c'est « Tu honoreras ton père et ta mère ». Il y a une société, première société qui est naturelle, c'est la famille. Voilà. Ensuite, condamnation des idéologies délétères. Dans Quanta Cura, je vous ai mis... voilà. Je ne peux pas tout citer, sinon je vais être trop long. La dignité et la liberté de l'homme, reconnue par la société. Voilà, donc l'Église s'adresse à l'État et lui donne une doctrine. Ensuite, les corps intermédiaires. Donc c'est à ce propos un peu plus qu'on parle d'économie sociale. La justice dans les relations du travail avec le juste salaire que j'ai déjà cité. Les papes donnent des critères pour le paiement et ils peuvent nous inspirer aujourd'hui. Et ensuite, l'association des travailleurs entre eux. Ça, c'est, on va dire, un pilier de l'enseignement de l'Église. Les associations professionnelles, c'est quelque chose qui revient très souvent. Le droit naturel de s'associer pour les ouvriers, pour tous les corps de métier, c'est un fondamental, un incontournable de la doctrine sociale de l'Église. Et vous allez peut-être me dire que c'est impossible, et j'aimerais vous citer un magnifique exemple, celui de la corporation de Tarare, qui a été fondée au début du XXe siècle, et qui a réussi à aider la ville de Tarare, qui se trouve de mémoire entre Saint-Étienne et Lyon, qui a réussi à aider les usines de textile de cette ville à assurer le plein emploi pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, et également assurer l'alimentation de toute la population. Depuis 1939, donc cette corporation qui s'ajoutait aux prestations sociales obligatoires, et donc qui était soutenue par une contribution financière de toutes les usines, il y avait une cinquantaine d'usines qui participaient, cette corporation a assuré le plein emploi du personnel masculin de la ville pendant toute la guerre. Alors qu'en 1941-42, il manquait de matières premières, ils ont lancé des cultures massives, notamment de pommes de terre, pour employer les ouvriers et permettre de continuer à donner des salaires. Et pendant les périodes de crise, les employeurs utilisaient leur main-d'œuvre à des travaux non productifs, de terrassement, d'aménagement divers, et la caisse corporative remboursait aux entreprises 50% des salaires affectés aux travaux. Comment est-ce que cette corporation a réussi à accomplir cet exploit pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Il y avait un patrimoine corporatif, donc la corporation détenait un capital, détenait des biens qui assuraient la sécurité de la corporation. Il y avait une caisse professionnelle qui était locale qui était administré paritairement, et donc à la fois à 50% par les patrons et à 50% par les employés. Et c'était la commission d'administration qui décidait des subventions ordinaires ou extraordinaires à donner aux entreprises. Et comme ils étaient proches et compétents pour l'exercice de l'industrie à Tarare, ils ont réussi à assurer la pérennité de leurs usines. Et en plus de ce qu'ils ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont assuré des compléments de retraite, donné des primes au mariage, à la naissance, des indemnités pour les décès, un soutien dans les longues maladies et les dépannages. Voilà. J'aurais aimé vous donner un autre exemple, mais je n'ai pas le temps. Donc, la doctrine sur les corps intermédiaires, avec une administration, vous l'avez vu à travers cet exemple, qui est locale, par des personnes compétentes, plutôt que par une administration de fonctionnaires qui mettent 6 mois à réagir et qui n'ont pas d'intérêt à bien administrer les caisses dont ils sont responsables, parce que leurs administrés sont loin d'eux et eux seront de toute façon payés à la fin du mois parce qu'ils ont le statut de fonctionnaire. Donc ça c'est la logique de l'Église pour promouvoir des associations professionnelles qui prennent en main les intérêts à la fois des entreprises et des communes. Ensuite, la famille, troisième pilier de cette doctrine sociale. Donc le respect de la famille est basé sur le respect du mariage. La famille permet de progresser dans la pratique des vertus, grandir surtout dans la vraie charité envers Dieu et envers le prochain. Donc, je ne vous ai pas explicité, mais à chaque fois dans la partie droite de mon tableau, je mettais les commandements de Dieu qui étaient en référence par rapport à cette doctrine sociale. Donc là, évidemment, tu honoreras ton père et ta mère, le respect de la famille, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, Dieu règne dans les familles et tu ne tueras pas. Voilà. Juste un exemple très rapide qui est typique du non-respect de la doctrine sociale de l'Église. Quand on ne respecte pas la doctrine sociale de l'Église, c'est la nature qui se venge en faisant subir les conséquences du non-respect de la doctrine sociale. Et donc, quand on ne veut pas respecter les lois du mariage, en autorisant le divorce dans la société, on provoque la solitude et la paupérisation des mères restées seules. C'est connu, tout le monde le sait. Les mères de famille, enfin les mères divorcées, sont la catégorie sociale les plus pauvres aujourd'hui. C'est une conséquence du non-respect de la doctrine sociale de l'Église. Donc le Christ, s'il ne règne pas par la reconnaissance de ses lois, c'est ce que dit Pie IX dans Quanta Cura, règnera par les conséquences du non-respect de ses lois. Donc le Christ règne quoi qu'il arrive. Et ce règne est un règne de bonheur s'il est accepté, un règne de malheur s'il est refusé. Et puis, quatrième et dernière partie de l'enseignement social de l'Église, c'est la place des individus dans la société, avec en particulier le respect de la propriété privée, qui est un élément fondamental de l'économie, de l'enseignement économique de l'Église. Grosso modo, en un mot, quand on est propriétaire, on est intéressé à bien gérer. Voilà. Donc, un bon gestionnaire sera un propriétaire. Un propriétaire sera un meilleur gestionnaire qu'un locataire. Donc, l'Église a pour maxime tous propriétaires plus que tous locataires. Voilà. Et donc, vous allez peut-être me dire, mais là, vous êtes en train de parler de propriété privée, vous sortez complètement du domaine de la morale. Pas du tout, parce que c'est encore une fois un jalon, un moyen indispensable, incontournable, inscrit dans le cœur de l'homme, inscrit dans la nature de l'homme, pour permettre de respecter la loi morale. Donc le « tu ne voleras pas », qui veut que chacun rende au prochain ce qui lui est dû, tu honoreras ton père et ta mère, donc respect des relations sociales de supériorité. Encore la vertu de prudence qui nous demande de bien gérer nos affaires, notre propriété, demande que nous soyons propriétaires. Donc ça, c'est quelque chose qui marche pour la propriété immobilière, qui est la propriété par excellence, et aussi pour le fonctionnement de l'entreprise. Là encore, je résume en deux mots, une grande entreprise de 2000 employés qui avait fait en sorte que l'entreprise soit organisée en petits ateliers de 5 à 10 personnes et que chaque atelier ait une très grande autonomie de gestion, soit en fait propriétaire de ses outils, de la matière destinée à la production, ce qui fait que c'est chaque atelier qui allait acheter au service commercial de l'entreprise la matière dont il avait besoin, qui marchandait la qualité et qui orientait sa production en fonction des débouchés de l'entreprise. Et ce système structuré par petits ateliers où chaque petit atelier était intéressé à bien travailler a évidemment produit des fruits très importants. La société a multiplié ses bénéfices, comblé ses clients par la qualité des produits. Et donc, voilà, la propriété privée, c'est un jalon fondamental de l'organisation sociale de l'entreprise. Je pourrais citer l'exemple d'École Cause, mais il n'y a pas le temps. Ensuite, toujours dans la place des individus dans la société, le droit pour l'homme d'utiliser les biens matériels s'il en a absolument besoin, un miséreux pour manger, pour se servir à l'étalage, donc aussi une partie de la doctrine sociale. Et puis, l'existence de hiérarchie sociale naturelle, donc la condamnation de l'égalitarisme. Il y a une égalité de nature, mais sinon l'inégalité est naturelle dans la société. Donc là, c'est aussi un fondamental que je n'ai pas le temps de développer. Alors, vous allez me dire, bon, monsieur l'abbé, bon, très bien, on a compris. Donc, retenez comme deux piliers essentiels de la doctrine sociale, les sociétés professionnelles et la propriété privée. Voilà. Donc, retenez ça comme deux piliers incontournables, évidemment, beaucoup d'autres choses. Bon, monsieur l'abbé, on a compris. Merci. C'est une belle doctrine, mais c'est impossible. Nous, là, on est 40. Moi, j'ai du travail, j'ai pas le temps. Que faire ? Alors, d'abord, je vais vous donner les recommandations, les directives, la méthode d'action de Pionze dans Quadragésimo Anno. Et puis ensuite, je vous parlerai un peu des enseignements de Jean Housset qui sont intéressants. Alors, Pie 9. 1, 2, 3, 4, 5, 5 étapes, recruter et former, je cite Pie 9, dans leur sein même, des auxiliaires de l'Église qui comprennent leur mentalité, leurs aspirations, qui sachent parler à leur cœur dans un esprit de fraternelle charité. Donc, c'est chacun dans sa profession, dans sa commune, là où il est, là où il est compétent, qui va pouvoir rayonner. Première idée. Deuxième idée, que des prêtres les recherchent avec soin, les choisissent avec prudence, les forment et les instruisent. Il faut se former. On ne fait de bien que si on est formé. Donc si on se dit « je ne sais pas quoi faire, j'y arriverai jamais », c'est peut-être qu'on n'est pas formé. Et que si on savait comment faire, eh ben on y arriverait très bien. Voilà. Que les évêques désignent ces prêtres pour leur idonéité. Donc une organisation. Pionze ne veut pas d'amateurisme. Il veut qu'il y ait des prêtres qui soient désignés pour répondre à la nécessité d'enseignement et donner l'enseignement des papes, donc ce livre, résumé des encycliques utiles à avoir chez soi, par exemple. Ensuite, que les laïcs choisis suivent les exercices spirituels de Saint Ignace. Il ne suffit pas d'avoir une intelligence formée, il faut une volonté forte. Et ça, c'est Saint Ignace qui le donne. Ensuite, que tous s'unissent et coopèrent étroitement, éviter la dispersion des forces. Voilà. Donc, les enseignements de Pie 11. Avec ça, on a tout, on a le résumé. Maintenant, à l'aide de Jean Housset, j'explicite un petit peu. Je fais comme l'abbé Boivin, j'ai commencé en retard, donc je finis en retard. Il faut bien avoir en tête que l'élément clé, l'élément fondamental, c'est un mot et c'est le consensus. Voilà. Le consensus, c'est le mot-clé de l'action politique. Donc, le but, c'est pas de publier un journal de 50 pages. Le but, c'est pas de faire une conférence avec 700 personnes. Le but, c'est pas de faire un parc d'attractions qui draine des centaines de milliers de personnes. Le but, c'est le consensus. Joseph de Maistre dit « Il est impossible d'imaginer l'établissement d'une souveraineté chrétienne sans imaginer un peuple qui consente à obéir. » Ouais, c'est une réalité sociale basique de la vie. Pour ce consensus, il y a deux méthodes d'action, il y a deux piliers. D'abord, l'imprimer, si on veut, aujourd'hui avec l'écran, l'imprimer ou l'écran, sous toutes ses formes, force toujours redoutable, très souvent décisive, parce qu'on est seul face à un livre, on réfléchit, on imprègne son intelligence, donc redoutable, toujours décisive, donc il faut avoir des revues catholiques à diffuser dans son cercle professionnel, dans son cercle communal, qui parlent de ces problématiques, mais ce volet est insuffisant s'il est pris tout seul. Voilà. Donc là, je cite le tome 2 de Jean Housset, Doctrine d'action pratique, très difficile à trouver, intéressant. Ensuite, quel est en fait l'élément fondamental? C'est l'action capillaire par les contacts humains. C'est l'action intense par contact personnel que nous avons trop méconnue, dit Jean Housset dans les années 50, quand il parle. Et donc, il faut parler. Pour parler, il faut avoir quelque chose à dire, il faut être formé, et il faut rayonner dans son milieu professionnel, dans son milieu social. Voilà. C'est l'essentiel. Je pourrais vous citer l'exemple, par exemple, d'une cellule d'action communiste. Il s'était dit, on est implanté dans un immeuble en Angleterre depuis longtemps, et c'est bête, on a un hôpital juste à côté, et l'hôpital n'a toujours pas sa cellule d'action communiste. Et donc, ils se sont dit, on va aller boire le café dehors avec les employés de l'hôpital. Ils ont lié des contacts avec les employés de l'hôpital, certains sont devenus des militants communistes, et la cellule du Parti communiste de cet hôpital a duré pendant des dizaines d'années. Voilà. Donc les fils des ténèbres sont plus habiles que les fils de lumière. Jean Housset, pour rayonner, pour influer sur la société, réfléchit aux différentes méthodes pour diffuser des idées de façon factuelle. Et donc il cite, je vous les ai mis en haut du tableau, des réunions, des conférences, des cours, des écoles de cadres, des cercles d'études. Et il compare selon 13 critères que j'ai pas mis entièrement. Selon 13 critères, c'est différents moyens. Donc les réunions. Par exemple, l'unité intellectuelle rigoureuse, l'harmonie psychologique, l'intérêt, les soucis communs. Donc les réunions, le fait de se retrouver pour discuter de problématiques communes, les conférences, donc je suis en train de vous faire une conférence, les cours, toutes les semaines un cours, les écoles de cadre, donc une semaine de formation intensive, et les cercles d'études, le cercle d'études où on est entre 8 et 10, et chacun peut prendre la parole autour d'un livre de référence. Et fort de cette étude, Jean Housset en déduit, évidemment les autres moyens sont bons aussi, mais qu'un moyen très efficace pour se former, pour rayonner, c'est le cercle d'études. Le cercle d'études, c'est ce qu'a fait la Cité catholique, qui est montée en puissance très rapidement. Il y avait des cercles d'études qui se sont spécialisés au fur et à mesure dans les différentes branches de l'activité sociale. Donc il y avait des cercles pour l'armée, etc. Et donc chacun pouvait se réunir pour discuter des problématiques spécifiques, et ça faisait des noyaux de personnes qui avaient une vision commune et pouvaient essayer de la promouvoir dans leur cercle professionnel ensuite, parce qu'ils en avaient discuté, ils l'avaient forgé, et ils étaient d'accord pour agir ensemble dans la même direction. S'il faut conclure, donc, deux piliers principaux, la formation et ensuite l'action, avec une action soutenue par le clergé, du moins l'enseignement de l'Église. L'enseignement des papes est absolument lumineux. Les maisons des exercices de Saint-Ignace, c'est un combat qui demande du courage, et donc il faut aller le chercher, ce courage, dans une vie chrétienne fervente. Ensuite, des publications, selon les moyens adaptés à notre époque. Donc aujourd'hui, il y a des écrans, il n'y a plus que du papier. Et puis enfin, des cercles d'influence. Et je finis par une citation de Saint Pie X qui nous invite à agir. Il importe peu d'agiter subtilement de multiples questions et de disserter avec éloquence sur droit et devoir si tout cela n'aboutit pas à l'action. L'action, voilà ce que réclament les temps présents, mais une action qui se porte sans réserve à l'observation intégrale et scrupuleuse des lois divines et des prescriptions de l'Église, donc notez les lois divines, à la profession ouverte et hardie de la religion, à l'exercice de la charité, sous toutes ses formes, sans nul retour sur soi ni sur ses avantages terrestres.